I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Louis.
Il y a quelques mois, une maison d'édition m'a donné rendez-vous. Je pensais proposer un projet, en fait, ils en avaient un pour moi. Ils ne voulaient pas parler d'un livre, mais d'une collection qu'ils lançaient, pile dans mon sujet, la mode. Un livre, sans doute deux, peut-être plus. Freelance depuis 6 mois, autrice à mon compte, j'étais aux anges. On a fait 2 rendez-vous, échangé un tas de mails. J'avais proposé une maquette, le projet était bien avancé. On avait conclu un accord de principe, restait à régler la question financière, mais ça c'était une formalité. Je demanderai une somme, il proposerait moins. On s'accorderait sur les pourcentages de droits et l'affaire était bouclée. Le planning était déjà fixé et l'écriture devait débuter à la rentrée. Sauf qu'à la rentrée, plus rien. Disparition totale, plus aucune réponse, le silence. Le dernier mail étant une promesse de mon interlocuteur de revenir vers moi très rapidement. Je réponds à ce mail, je demande où en est l'offre de contrat. Je relance, encore, je demande des nouvelles, rien. J'appelle, sans succès. Au bout de 2 mois, je finis par envoyer un dernier message comme une bouteille à la mer. Pouvez-vous au moins me dire si le projet est annulé ? Rien. Le ghosting en amour, on connaît bien. Vous savez quand votre crush disparaît du jour au lendemain comme s'il avait été soudainement enlevé par les FARC ? Et encore, je pense que généralement les FARC préviennent quand ils enlèvent quelqu'un. On connaît le phénomène et avec les applis de rencontre, on a le sentiment que ça devient monnaie courante, même si les enquêtes manquent sur le sujet. Le ghosting, c'est ça. Pas de mail, pas de texto, encore moins de coups de fil ou de courrier. Et surtout, un silence absolu face à nos mails, nos textos, nos coups de fil ou nos courriers. Le ghosting, c'est quelqu'un qui disparaît de votre vie et qui vous rend, comme par ricochet, transparent à votre tour, réveillant souvent des traumas profonds. Chez moi, ça a toujours été une crainte aussi intense que diffuse. Une des pires angoisses du monde. Petite, je me souviens très bien avoir entendu cette fameuse histoire de Véronique Sanson partie acheter un paquet de clopes sans jamais revenir, laissant un Michel Berger d'abord inquiet, puis dévasté. Véronique avait entre-temps pris un avion pour les États-Unis, épousé un Américain et fait un gosse. Un cas de ghosting magistral, il faut bien le reconnaître. Et puis, c'est arrivé. Mais pas là où je l'attendais. Au travail. Au début, je n'y ai pas cru, et puis j'ai dû me rendre à l'évidence. Et ça n'a pas été un processus facile. En vérité, ça m'a même rendu un peu obsessionnelle. Pourquoi on ne me répondait pas ? Qu'est-ce que j'avais fait, dit ? Qui leur avait parlé de moi ? Avait-il rencontré par hasard à la fromagerie mon ex Étienne à qui j'avais raconté pour l'éviter que j'étais bloquée en Chine depuis plusieurs semaines alors que j'étais chez moi dans le 18e arrondissement de Paris ? Dans une relation de travail, il y a a priori moins d'affect, pas autant d'enjeux émotionnels que dans une relation amoureuse. Comment c'était possible que dans le cadre pro, on m'évite comme ça et qu'on ignore toutes mes relances ? En cherchant des infos sur le sujet, ce qui ressort, ce sont plutôt des articles expliquant le développement de cette tendance côté employé. Après le Covid, et dans des secteurs en tension comme la restauration par exemple, le rapport de force s'est parfois inversé, et des candidats ont pu se permettre de ne pas donner suite aux entretiens d'embauche, voire de disparaître du jour au lendemain, abandonnant leur poste sans même daigner en avertir leur manager. Une attitude assez inédite, peut-être comme un retour de bâton encouragé par des décennies d'entreprises omettant le plus souvent de traiter correctement les candidats à l'embauche. Dans un sondage réalisé par Opinionway pour Indeed en 2023, 57% des candidats et 57% des recruteurs, symétrie parfaite, admettent avoir déjà ghosté l'autre. Bref, le ghosting en cours de recrutement est largement admis. C'est même très banal. pas de quoi fouetter un chat ou en faire un podcast. Mais quid du ghosting une fois la relation de travail bien installée? Je suis Yvan Jacob, bienvenue dans Travail en cours. À force de raconter mon histoire pour exorciser, j'ai découvert que pas mal de gens autour de moi avaient fait, eux aussi, la malheureuse expérience du ghosting professionnel. C'est le cas de Hailey. Hailey, je l'ai rencontrée sur Instagram. On fait un travail pas très éloigné. C'est un petit monde, on se parle, on échange, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Après avoir décidé de faire ce podcast, je lance un appel sur mon compte. Qui a déjà vécu un ghosting au travail? Hailey surgit dans mes DM. Je me souviens d'une expérience de ghosting au début de ma carrière. Un traumatisme, vraiment. J'ai mis du temps à m'en remettre, je peux t'en parler si tu veux, mais ça risque d'être long. Bien sûr que je veux. Rendez-vous est pris dans son petit appartement parisien, ultra cosy.
C'est il y a à peu près un petit peu plus d'une dizaine d'années, 12 ans je pense, et je suis jeune diplômée, j'ai un double diplôme dont je suis très fière. J'ai d'abord fait l'école du Louvre jusqu'à la dernière année, un master, et après j'ai voulu me spécialiser en mode, en patrimoine de la mode, donc je suis partie à Londres. Au London College of Fashion, où j'ai fait un master qui s'appelle Fashion Curation, en gros, conservation du patrimoine de la mode. Et pendant tout ce temps, je me dis, bon, je suis pas arrogante, je suis pas orgueilleuse, c'est pas mon caractère, mais j'ai une forme de confiance en moi, parce que je sais bien que ce double diplôme est quand même rare, et qu'il y a de grandes chances qu'en rentrant à Paris, je vais aisément trouver du travail. Il n'y a pas de raison, en tout cas, que je n'en trouve pas. Je déchante très très vite, je rentre à Paris, j'envoie mes petites lettres de CV, toute contente de moi, et j'ai pas de retour, ou alors j'ai des retours, ce que je dois dire que les gens sont assez sympas et répondent, en tout cas à l'époque. La plupart du temps, c'est soit oui, mais non, parce que on a déjà un département et c'est une personne, elle est là, elle est dans les meubles, elle bougera pas, elle a pas besoin d'assistante, on n'a pas le budget pour. Ou alors, à l'inverse, on n'a pas du tout de département dédié à ça, parce qu'en fait, c'est souvent l'équipe de la com qui s'occupe des archives ou du patrimoine. Et le temps passe. Très lentement. Et là, je commence vraiment à déchanter, à me dire, mais en fait, je me suis complètement plantée. Et puis, un jour, un miracle se produit. Alors, j'avoue que là, j'ai un petit peu oublié. Je ne sais plus si c'est par mail ou par un coup de téléphone. Mais je suis contactée par une personne qui est en train de développer un département, un bureau dédié au patrimoine dans une grande maison de luxe française. Toujours est-il qu'il me découvre. Et il me dit que j'ai le profil idéal, que c'est exactement ce qu'ils recherchent. En plus, le fait que j'ai cette double casquette art et mode, ça les intéresse parce que même si c'est une maison de luxe et de mode, elle a quand même un passif, en tout cas d'intérêt pour l'art. Et on se rencontre. Et on a un premier rendez-vous hyper sympa. Cette personne, elle n'est pas beaucoup plus âgée que moi. J'ai l'impression qu'elle est jeune. C'est très amical, très, très joyeux. On parle pendant des heures et des heures, on est sur la même longueur d'onde. Et moi, je me dis, bon, bah déjà, première impression, c'est cool. C'est pas du tout formel ou quoi que ce soit. Et puis, les rendez-vous s'enchaînent.
Jusque-là, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu. Même si dans mon cas, il n'était pas question d'embauche, puisque je suis freelance. Mais les premiers rendez-vous s'étaient extrêmement bien passés. Tout se goupillait parfaitement, c'était fluide, facile, a priori, aucune raison de se méfier. Ce qui rend sans doute le ghosting encore plus dur à appréhender quand il se présente.
Je pense que tout ça, tout ce processus doit durer à peu près 2-3 mois ou quasiment une fois par semaine ou une fois tous les 10 jours. Je suis dans la maison, je me balade, on me montre mon bureau, mais limite même la chaise sur laquelle je vais m'asseoir, tout est très précis. On me dit, ah bah tiens, ah bah elle, ça va être ta collègue, ah bah elle, ça sera elle que tu devras demander pour les archives. Enfin, vraiment, je fais partie des murs, quoi. Je connais tout le monde, j'arrive, bonjour, salut. J'ai pris mes marques, en fait. Je me sens déjà chez moi, même si je suis pas encore officiellement embauchée. C'est bon, c'est évident. Et en plus, je suis contente parce que comme c'est en plein développement, je suis seule avec cette personne et on sent que tous les deux, on est un peu galvanisés, qu'on a plein de choses à produire, en fait, qu'on est en train de... Ouais, qu'on est à la genèse d'une aventure. Donc, ça, c'est hyper chouette. En plus, pour une jeune diplômée, je me dis, waouh, on a tout à écrire ensemble, c'est hyper excitant, je vais vraiment pouvoir mettre à profit tout ce que j'ai appris à l'école. Donc, ouais, Je suis joisse, quoi. Je suis ravie. Tout se déroule très, très bien. Genre, la communication était hyper fluide. Tout était... ça roulait, quoi. Enfin, c'était hyper naturel. On s'appelait, on s'échangeait. Il répondait dans la demi-heure à mes mails dès que j'avais une question. Arrive un dernier rendez-vous. Ce rendez-vous devient beaucoup plus administratif. C'est-à-dire que là, on avait vraiment fait tout ce qui était discussion, projet, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va bosser. Là, ça y est, c'est tout ce qui n'est pas très rigolo, signer des papiers, donner ma carte vitale pour qu'on fasse la photocopie, pour établir le contrat et tout. Donc, je fais tout ça avec toujours la même personne qui me dit « Bon, allez, hop, j'envoie tous tes papiers que tu m'as donnés, on va faire le contrat. » Donc là, je suis dans son bureau, je m'apprête à partir. Je me lève de ma chaise, je m'approche de la porte, je vais pour mettre la main sur la poignée. Il m'interpelle et il me dit « Ah, au fait, j'ai une question pour toi, mais juste un petit truc en passant, comme ça, rien de très important. » Je me retourne et là, il me pose cette fameuse question. Et sur le moment, il me paraît très anecdotique. Au moment, je me dis « Oui, en effet, c'est une question comme ça en passant. » Mais quelques mois plus tard, j'ai compris que c'était certainement cette question qui avait fait tout basculer.
Là, je vous laisse avec un petit suspense. On y reviendra plus tard, à cette question a priori anodine, qui pourra peut-être nous permettre de comprendre le cas précis de Hailey. Toujours est-il que, pour elle, soudain, tout s'arrête.
Et puis, plus rien. Le silence. Un silence mortel, où moi, je l'appelle, parce que j'avais son numéro de portable, donc je l'appelle, je lui envoie même des textos, chose que je ne me serais jamais permise de faire, parce que pour moi, le texto, c'est quand même un peu familier, là, c'est quand même quelqu'un du travail. Mais là, je me dis au bout d'un moment, oui, moi aussi, je me dis, peut-être que cette personne a eu un accident. En plus, tout ça, c'était juste avant l'été. J'ai oublié de le préciser. C'était, je pense, notre dernier rendez-vous devait être en juillet. Donc, je dis, peut-être qu'elle est partie en vacances. Peut-être qu'elle est morte pendant ses vacances et que personne dans cette maison sait que j'existe. Donc, personne n'a pensé à me prévenir. Enfin, vraiment, je m'imagine plein de scénarios pas possibles. J'envoie des mails. Quand j'appelle, je tombe direct sur la messagerie, donc j'ai l'impression limite que cette personne m'a bloquée ou filtrée. Enfin, c'est super bizarre. Et je comprends pas. Enfin, je me dis, mais c'est super bizarre. Enfin, j'étais censée être embauchée. La rentrée arrive. Et là, je me relance un peu dans le truc. Entre, les vacances étaient passées. Je me dis, je me relance, je vais le re-harceler. Parce que, en effet, peut-être qu'il était en vacances. C'est pas de sa faute. Pareil, aucune nouvelle, aucune réponse. Bon, là, je lâche l'affaire, quoi. Au mois, je pense, d'octobre, fin octobre, je me dis, c'est fichu.
Chez moi, le premier sentiment que le ghosting a déclenché, avant l'incompréhension, avant la colère, c'est une forme d'angoisse. J'y pensais toute la journée et aussi la nuit. Je tournais l'histoire en boucle dans ma tête. Je saoulais les autres avec. C'est à peu près ce que Hailey raconte aussi.
On se sent tellement vulnérable dans ces cas-là parce que on se dit, comme j'imagine, ça m'est jamais arrivé dans la vie intime, mais j'imagine qu'est-ce que j'ai fait de mal, j'ai peut-être dit un truc qu'il fallait pas dire, j'ai peut-être pas habillé comme il fallait. Enfin, on se met à la rate au courbouillon à s'imaginer à plein de choses qui en plus évidemment sont de notre fait. C'est forcément nous qui avons fait quelque chose qu'il fallait pas. Donc ça déjà c'est hyper violent envers soi-même. On s'auto-flagelle en permanence. En plus comme je disais, moi j'étais jeune diplômée, j'avais déjà galéré pendant un an. Donc là, ça me remet un coup sur la tronche. En disant, décidément, c'est vraiment pas fait pour moi ce boulot. Personne ne m'aime, personne veut de moi. Enfin, tous ces trucs où on tombe au fond du trou et on a l'impression qu'on va jamais en sortir. Donc, j'étais vraiment pas bien. Et ça m'a fait vachement perdre confiance en l'autre. C'est-à-dire qu'après ça, je me suis souvenue que dès que quelqu'un me parlait boulot, d'un projet ou tout, j'étais beaucoup plus méfiante. Moins aimable, j'étais pas désagréable avec les gens, mais voilà, je gardais mes distances. Ça m'a complètement coupée dans mon lien social.
Je demande aussi à Hailey si elle a ressenti de la honte. Parce que quand on est, par exemple, comme moi, très bavarde, on a tendance à parler de ses projets à tout le monde. Et donc à devoir dire à tout le monde que, finalement, non.
Oui, c'est ça toute la problématique de ce genre de situation. C'est que comme on t'excite, t'es très excité. Et donc tu dis à tout le monde, trop bien, j'ai trouvé un poste de dingue, je vais être dans telle maison. Alors évidemment, comme c'est une maison qui est connue, tout le monde réagit, on dit, incroyable, génial, trop bien, trop beau. Et là encore une fois, ce truc de comment tu te situes par rapport aux autres, comment t'annonces. Parce que les gens, genre, à la rentrée, justement, en septembre, c'est genre, t'as commencé ton boulot? Non, non. Et après, tu te sens, tu te justifies et t'expliques, mais les gens trouvent ça super bizarre. Parce que, non pas qu'ils te tiennent responsable de ce qui t'arrive, mais quand même, les gens se disent, c'est quand même bizarre ce qui lui arrive. Genre, elle s'est peut-être un peu emballée, elle nous a un peu mitonnés, en fait, elle avait pas le poste. Donc, tu te sens bête. tu te sens un peu, un peu bête face aux autres.
J'ai voulu savoir si Hailey et moi, on en faisait des tonnes, ou si la non-réponse, c'était vraiment un motif de souffrance. C'est pourquoi je suis allée chercher Jean-Christophe Villette, directeur du cabinet de conseil Équilibre et psychologue du travail et des organisations.
Quand on est associé à une situation de ghosting, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à une rupture de la communication soudaine, brutale, sans explication de la part de son interlocuteur ou de son interlocutrice, c'est évidemment une situation fortement déstabilisante. Que ce soit la première fois où on est exposé à cette situation ou que cette situation se répète. Pourquoi c'est déstabilisant ? Parce qu'on n'a absolument aucun élément de réponse qui nous permet d'identifier si à un moment donné, on a mal répondu à une question, on a fait quelque chose de mal, on s'est mal habillé à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de mon interlocuteur ou de mon interlocutrice ? Est-ce que c'est mon interlocuteur ou mon interlocutrice qui, à un moment donné, a changé d'avis ? Est-ce que c'est son organisation qui lui a donné une autre directive, auquel cas il est freiné dans sa prise de décision et peut-être elle arrivera demain ? C'est à chaque fois une violence extrêmement importante sur le plan psychologique, beaucoup de questionnements, de la remise en question, un impact sur l'estime de soi qui peut être très important. Si on est déjà personnellement et humainement fragilisé par un certain nombre d'autres situations, eh bien, c'est une goutte d'eau qui peut venir vraiment faire chavirer sa capacité à faire face aux épreuves émotionnelles que l'on peut rencontrer dans sa vie de tous les jours. Cette pratique de rupture brutale du canal de communication est impactante humainement pour son interlocuteur ou son interlocuteur.
Je suis aussi allée interroger Maline Ridal.
Bonjour, je m'appelle Maline Ridal, je suis d'origine danoise, ça fait 28 ans que je vis en France et je suis spécialisée dans le bien-être et la performance dans les entreprises. Et donc, j'écris 3 livres et donc le dernier qui s'appelle « Je te réponds, moi non plus » en 2020 chez Flammarion.
Et elle aussi souligne la violence du ghosting.
Finalement, on a un sentiment souvent de rejet, de désamour quand on ne nous répond pas, ou de blessure. Dans le cadre de l'écriture de mon livre, j'ai voulu quand même aller un peu plus loin et avoir un peu de data, et notamment le quantitatif. Donc j'ai fait un sondage dans plusieurs pays dans le monde. Dans le sondage, 2 personnes sur 3 se sentent rejetées, blessées, pas aimées, humiliées, voire quand on n'a pas de réponse. Parce que la non-réponse fait appel à notre pire version de nous-mêmes. Donc, toutes nos insécurités remontent et on pense qu'on nous ne répond pas à cause de ces insécurités qui peuvent varier selon la personne qui est sujet d'une non-réponse. Et en réalité, la grande explication de la non-réponse est dans la charge mentale, c'est-à-dire que trop de messages. Et donc, du coup, avec une variation de trop de messages, pas assez de temps. Et j'ai oublié. Ça, c'est le grand pôle qui explique 50%. Donc, parfaitement non personnalisé et rien à voir avec la personne qui a envoyé. Après, il y a une variation qui est « je n'aime pas dire non, je ne sais pas quoi répondre », qui se situe alors, dans une forme de malaise de la personne qui doit répondre et pas forcément de ce que la personne a envoyé.
Ah voilà, on y vient. C'est ce que j'ai le plus envie de demander aux spécialistes. Pourquoi, diantre, les gens font-ils ça ? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'une personne qui, du jour au lendemain, décide de ne plus vous répondre comme si on n'habitait plus sur la même planète ?
Il peut se passer plein de choses dans la tête de cette personne. On pourrait raconter l'histoire de plein de façons différentes. Peut-être que cette personne est rattrapée par son organisation, s'est engagée rapidement, de façon très honnête, avec l'envie de recruter Ellie, et a été rattrapée par des jeux d'acteurs en interne dans son organisation, ne lui donnant pas les moyens de pouvoir aller plus loin, et d'être ensuite très gênée de revenir vers Ellie en ayant été déjà très avancée, en réalité, dans les échanges, dans l'anticipation, dans comment travailler ensemble. Alors, ce n'est pas excusable de ne pas apporter cette réponse. En revanche, c'est compréhensible de pouvoir être gêné et de ne pas avoir à ce moment-là identifié quelle est la bonne façon d'entrer en contact avec Ellie pour lui expliquer très simplement, avec authenticité, la situation.
Donc là, vous me montrez un sondage qui a été commandé pour votre livre.
Oui.
Et qui dit que 72% des personnes interrogées déclarent ne pas répondre à certains messages professionnels. Donc ouais. C'est extrêmement répandu.
Oui, bah ça c'est... je pense que c'est un chiffre à la fois rassurant et alarmant, mais en tout cas c'est dans le rassurant dans le côté ne le prends pas personnellement et alarmant dans le sens que c'est qu'il y en a trop.
Dans son livre, Maline évoque aussi la timidité ou la gêne que les personnes qui ghostent ressentent. C'est ce qui peut les pousser à agir ainsi. Enfin, plutôt à ne pas agir du coup. Et plus le temps passe, plus c'est dur pour eux de sortir de cette spirale.
Pour ceux qui ne répondent pas, il y a un moment où ça devient l'engrenage pour eux. Et en fait, ils appliquent vraiment la stratégie de l'autruche tout en sachant... C'est-à-dire, il y a un moment de honte ou de désagrément quand le relance arrive, mais ils ne peuvent pas gérer ça parce que c'est l'engrenage, ça fait trop longtemps. Donc, la réponse qui arrive maintenant... Et pire que pas répondre du tout, ils trouvent. Alors que c'est pas vrai, parce que la personne qui relance, c'est forcément pour avoir la paix. La réponse, même si c'est une réponse négative, c'est-à-dire un non, ben nous libère. Et c'est pour ça que dans le même sondage, 80% des personnes, ils disent préférer une réponse négative, voire désagréable, qu'une non-réponse.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais ce que ce sondage nous apporte comme précieux éclairage, c'est surtout les motivations profondes des ghosters.
Le sondage montre que très 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 peu de non-réponses est lié à la relation à la personne. Donc il y a seulement, je crois que c'est à peine 10% qui disent « je n'aime pas la personne » ou « je ne trouve pas la personne importante ».
Mais alors quoi ? Il y a aussi le trop-plein de messages, bien sûr, qui peut submerger les gens et leur donner la sensation de se noyer dans un verre d'eau.
Je pense que la multiplication de sollicitations, de messages, c'est connu aussi de messages, c'est-à-dire il y a aussi les messages publicitaires, il y a le bruit, il y a toute cette sollicitation de notre être, de notre charge mentale, fait qu'à un moment donné, c'est trop. Si j'ai bonne mémoire dans les chiffres, c'est quasiment 7 personnes sur 10 qui disent pour un message instantané, donc SMS, WhatsApp ou autre appli, on considère que c'est une non-réponse au bout de 3 heures. C'est très très court. Le mail, c'est dans la journée et je crois que le mail professionnel, c'est un peu plus long. Mais enfin, en gros, c'est très serré comme timing. Donc, on peut imaginer des voyages, du jet lag, d'autres choses, je sais pas, un événement familial ou autre chose. Et donc là, ça veut dire que ces tensions commencent assez rapidement quand on n'a pas de réponse.
C'est sûr, quand on ne reçoit pas de réponse, il ne faut pas crier au ghosting trop vite et laisser le temps aux gens de respirer. Dans mon cas, je considère qu'au bout de 2 semaines, il y a matière à relancer. Et si c'est toujours le silence, on peut commencer à s'inquiéter.
Je pense que sur 100% des personnes qui se retrouvent à un moment donné à rompre le canal de communication et donc à être acteur de ce qu'on appelle le ghosting, la prise de conscience réelle de l'impact généré est assez faible. Je suis assez convaincu que l'intention, on peut utiliser cette pratique dans une intention de nuire et de faire mal. Si on a à la fois conscience que cette pratique peut être utilisée, que l'on a conscience de l'impact de cette pratique dans un objectif de destruction. Je pense que la plupart du temps, l'utilisation de cette pratique n'est pas associée à une intention de nuire à son interlocuteur et que la sensibilisation sur l'impact que l'on génère à l'insu de son action permettrait de changer un certain nombre de ces pratiques.
Ça, c'est un point intéressant auquel je n'aurais pas pensé. Pour changer les pratiques, il faut commencer par alerter sur la souffrance que le ghosting peut engendrer chez l'autre. Des formations ghosting, en somme. Et après tout, pourquoi pas?
Je pense qu'on peut encourager les organisations à sensibiliser sur ce phénomène du ghosting. Le moment qui est le moment clé que l'on retrouve dans la plupart des situations, en tout cas qui m'ont été rapportées, c'est quand même l'ensemble du process de recrutement. Alors, il y a les process de recrutement avec des candidats qui ne sont pas des candidats aujourd'hui salariés de l'organisation. Mais on a aussi entendu, on m'a rapporté des phénomènes de ghosting à l'intérieur d'organisations dans des démarches de mobilité interne. Ce process de recrutement mérite d'être encadré par des pratiques éthiques, déontologiques dans toutes les entreprises, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur taille, et faire en sorte que répondre à une personne avec laquelle on est engagé, quand bien même c'est répondre à un mail que l'on a reçu et auquel on n'irait pas plus loin dans le processus de recrutement, ça doit être non négociable quand on est en responsabilité de recruter des personnes pour son organisation.
Maline Ridal aussi a des conseils pour les pros qui galèrent à gérer leur communication.
Alors ça, je détaille plus dans le livre sur justement les techniques de gestion de mail. C'est que, en fait, quand on ignore un mail, comme les systèmes sont bien faits aujourd'hui, surtout dans le monde professionnel, il faut s'attendre à avoir trois relances. C'est-à-dire que si vous répondez au premier mail en disant que non, ça ne m'intéresse pas, vous réduisez le flux de mail avec trois mails. Parce que du coup, ils vont revenir, les trois mails, parce que c'est des systèmes qui sont mis en route, hop, et un système CRM qui fait que, hop, on relance, et le mail est déjà fait. Donc, dans l'inbox, plus on a un système de réponse pour dire non merci, plus on arrive à gérer.
Là, on est sur une solution très concrète. Peut-être que vous pensez, depuis le début de cet épisode, à toutes les personnes à qui vous avez oublié de répondre récemment au travail. Et peut-être aussi que, comme beaucoup, vous vous sentez souvent débordé. Mais si vous suivez ce conseil ultra simple, dire non dès le début, quand c'est non, vous vous éviterez déjà pas mal de peine. Bon, mais en attendant que tout le monde soit bien formé, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai envisagé un temps de me rendre sur place, au pied des bureaux, pour espérer croiser quelqu'un et obtenir une réponse. J'ai vite abandonné l'idée, parce que c'est loin déjà, et que je trouvais ça encore plus humiliant. Hayley non plus n'a pas été jusque-là.
Mais moi, je suis d'une nature quand même timide, réservée, je suis très dans les clous. Donc, j'aurais jamais osé aller plus loin que juste m'adresser à cette personne comme je l'ai fait, mail, appel, SMS. Déjà, ça me paraissait énorme de faire ça. J'ai l'impression de le harceler, en fait. mais je n'aurais pas osé aller sur place, je n'aurais pas osé tambouriner à la porte en disant « donnez-moi une réponse ». Ça, c'était trop pour moi. C'est pas de mon caractère. J'ai un peu tendance à dire « ok, merci cordialement, au revoir ». Tant pis pour moi.
Alors, aller sur place, harceler les interlocuteurs, bonne idée ou pas ?
Je pense qu'il faut se donner une limite acceptable pour soi. Non, c'est-à-dire aller jusqu'au bout du process, une fois qu'on ne vous répond plus, accepter de potentiellement passer à autre chose. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est quelle est la limite acceptable pour soi. Et si dans cette situation, les ressources qu'on est en capacité de mobiliser, que j'appelle des ressources psychosociales, c'est-à-dire sa capacité à s'exprimer sans basculer dans l'agressivité, puisqu'à partir du moment où je bascule dans l'agressivité, même si je ressens de la colère, je me suis peut-être disqualifié dans ma capacité de maîtriser mon sang-froid et d'utiliser cette gestion dans le poste au sein de l'entreprise, peut-être même dans ma capacité à être dans l'empathie d'une entreprise qui traverse une phase compliquée et d'un interlocuteur qui peut lui-même être en difficulté sur ce sujet. Donc, les compétences d'affirmation de soi, de communication non violente sont extrêmement intéressantes, notamment pour faire face à l'ensemble des épreuves que l'on peut rencontrer sur son chemin, qui sont des épreuves de rupture relationnelle, de tension conflictuelle ou de conflit, pour mieux s'impliquer et éviter de s'isoler ou de s'enfuir, voire de se victimiser. Et plusieurs conseils que l'on peut donner, bon, déjà, c'est de savoir que ça peut arriver. Parce que quand on rencontre la situation et qu'on n'a pas du tout identifié que cette situation peut faire partie de certaines pratiques dans les processus de recrutement, c'est important d'y être préparé. Dans une situation comme celle-ci, c'est déjà garder confiance en soi, c'est éviter d'être dans l'attente et aller vers son interlocutrice ou son interlocuteur en formulant un mail de relance et en manifestant son intérêt pour le poste, revenir, réitérer sa motivation, demander s'il manque une pièce, utiliser aussi le téléphone, se déplacer sur le site, utiliser un certain nombre de recours, potentiellement adresser à une personne en charge de la direction des ressources humaines de l'entreprise une requête dans ce sens-là. Ça peut être aussi dans une stratégie de recrutement. Le fait de marquer un silence fait aussi partie de certaines stratégies de recrutement pour tester la motivation des candidates et des candidates.
Maline, elle, a une botte secrète.
C'est mon frère qui m'avait dit ça. En cas de non-réponse, où on se dit, mais enfin, c'est pas possible. Lui, il a envoyé un message qui était de l'ordre à dire « Je suis extrêmement inquiet, j'espère que vraiment rien de grave t'est arrivé, que personne n'est tombé gravement malade dans ton entourage. » Et en fait, souvent, sur ces questions de santé ou de presque... les gens, ils se disent « Ça porte la poisse, donc je vais répondre en disant que non, je suis pas malade, mais je suis très... Bon, voilà, j'étais pris, bon, voilà, quel que soit la... l'excuse. » Et donc, souvent, lui, il dit, mais moi, 9 fois sur 10, on me répond sur ce truc de « j'espère qu'il n'était pas tombé gravement malade ». C'est un peu l'ultime message pour dire, bon, s'il ne répond pas à ça, bah, c'est qu'il faut vraiment passer à autre chose.
Passer à autre chose. Dans les premiers moments, c'est très dur à entendre, évidemment. Et pourtant, c'est sans doute le seul vrai conseil que l'on puisse donner aux gens victimes de ghosting. Très difficile pour les gens qui sont dans le contrôle, mais ça permet notamment de ne pas devenir fou.
Quand on n'a pas de réponse au bout de plusieurs mois, etc., il faut passer à autre chose. Je fais peut-être mon petit checklist en disant que est-ce que j'ai été mal élevée ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui, est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans la relation qui de ma part. Et si je fais cette checklist et je me dis non, j'ai pas, non, il n'y a pas, bah, je passe à autre chose et je laisse la personne. Enfin, on n'a pas de toute façon, on n'a pas le contrôle si on a relancé plusieurs fois. Donc, c'est la capacité de passer à autre chose, de tourner la page, de dire bon, bah, voilà, il a dû arriver quelque chose à la personne.
Un autre conseil fondamental pour aider à tourner la page.
Vraiment, je pense que s'il y a un message clé, c'est ne le prenez pas trop personnellement, tous ces non-réponses. Évidemment, on a tous envie qu'on nous réponde en premier avec gentillesse et tout ça, mais le monde, il est bien trop désorganisé pour en permanence pouvoir répondre de cette manière-là à tout le monde, malheureusement. Donc, il faut naviguer dedans, il faut être lucide, il faut penser à nos propres messages. Et donc, si tous les 2 heures, on a une boule au ventre parce qu'on ne nous a pas répondu et on pense à chaque fois que c'est parce qu'on n'est pas bien ou qu'on n'est pas à l'auteur ou qu'on n'est pas assez intelligent, belle ou enfin toute la liste de choses, bah c'est usant. Donc, c'est pas bon. Je pense que c'est, de manière générale, il y a très peu d'actes de l'autre qui sont, entre guillemets, personnels. Les gens agissent pour eux. Et donc, si à ce moment-là, ils n'ont pas la place pour une personne dans leur vie, s'ils n'ont pas la capacité de communiquer aisément, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce comportement ne nous est pas réservé exclusivement. C'est des gens qui communiquent comme ça avec tout le monde. Sauf, exceptionnellement, s'il y a quelque chose qui est extrêmement important ou leur vie en dépend, bon, ils vont faire un effort, ils vont répondre. Mais ceux qui nous font des non-réponses hallucinante où on dit mais c'est pas possible, on était en dialogue, ils vont le faire aussi à d'autres personnes. Donc, alors on peut le prendre personnellement parce que c'est désagréable, mais je pense qu'on a intérêt à pas le prendre de manière personnelle parce que ça nous blesse et en fait ça tourne en rond, ça sert pas à grand chose.
Ne pas le prendre personnellement, passer à autre chose, acquérir ses grades de maître zen, ça semble être la seule bonne réaction face au ghosting, même si ça demande un sacré travail sur soi. Avant de tourner la page, il y a une situation particulière à évoquer. Hayley avait déjà commencé à bien échanger avec l'entreprise sur les projets à venir. J'ai moi-même fourni un travail à cette entreprise avec laquelle j'étais en lien. Et là-dessus, Jean-Christophe Villette a un dernier conseil.
Après, en fonction de l'investissement qui a déjà été le sien, il y a une limite entre être ghosté dans un processus de recrutement et avoir commencé à travailler pour une organisation. Et là, j'invite les personnes à aussi se renseigner sur les droits qui sont les leurs, les devoirs qui sont ceux des organisations qui les recrutent, parce que commencer à travailler pendant quelques jours, quelques heures, donner des idées quand on est dans l'ingénierie, dans le conseil, dans la conception, en tout cas dans une prestation qui peut être intellectuelle à un moment donné, c'est déjà du travail. Et donc identifier que l'entreprise ne vous a pas fait travailler gratuitement pour pouvoir bénéficier de vos conseils avant de vous remercier. Le point de départ d'un travail avec une organisation n'est pas le contrat.
Ailey n'a jamais eu de véritable réponse à ce qui s'est passé. Le mystère demeure. Mais après des mois d'interrogation, elle a repensé à cette fameuse question posée par son recruteur lors du tout dernier entretien dans son bureau.
J'ai limite la main sur le poignet, la poignée de la porte, et il m'interpelle, il me fait « Ah, au fait, une petite question comme ça en passant, mais c'est vraiment un détail. Est-ce que t'accepterais d'être stagiaire ?» Je me retourne et je dis « Bah, un, non, je n'accepterai pas parce que je n'en ai pas envie. » Et puis deux, je lui dis, bah, de toute façon, d'un point de vue légal, je peux pas parce que moi, je suis diplômée depuis quasiment un an. Ça faisait un an que je cherchais un boulot, donc je pourrais pas. Et ça, il me dit un peu en rigolant, mais oui, enfin, tu sais ça, on s'arrange toujours. Et j'ai dit, oui, mais non. Non, mais j'ai pas envie de m'arranger. Et il me dit, oui, bon, ok, pas de souci, c'était juste pour savoir. Et puis, bah, plus rien.
C'était donc ça, sans doute, la raison cachée du silence de cet homme. Il s'était engagé sans s'être suffisamment renseigné sur les conditions d'embauche. Et il a manqué de courage pour en informer Ailey. Mais l'histoire n'est pas encore au bout de ses rebondissements. Plus de 10 ans plus tard, Ailey reçoit un coup de fil de cette même maison.
Au mois d'avril de cette année, je suis contactée par des chasseurs de têtes qui me disent « Telle grande maison de luxe française nous a parlé de vous, a vu votre profil, connaît votre travail aujourd'hui et ont très envie de vous embaucher ». Pour devenir la directrice du département patrimoine et archives de leur maison, avec une équipe de 15 personnes sous votre autorité. Vous voyagerez dans le monde entier, vous aurez un salaire à je ne sais pas combien de zéros. Voilà, enfin, vous allez incarner le patrimoine de cette maison pour la marque. C'est un poste extrêmement important. Moi, je tombe des nues. Je me dis, attends, mais quoi ? Mais je n'y crois pas, je me dis, c'est bizarre. Et ils insistent et tout, on fait plein une série de visios et tout. Enfin voilà, on en parle très très longuement. Et il se trouve que c'était la maison en question. Et j'ai refusé le poste. Parce que, ce qui peut paraître très étonnant, parce que mes rêves d'il y a 10 ans ne sont plus mes rêves d'aujourd'hui. Et puis moi, je crois que je ne sais pas être corporate. Moi, en fait, ma mésaventure avec cette maison d'il y a 10 ans a fait que je suis devenue freelance. Parce que je me suis dit, bon bah, je ne trouverai jamais de boulot en entreprise. Je vais le créer mon propre boulot. Donc mon indépendance, maintenant, j'y tiens plus que tout au monde. J'ai changé.
Apprendre des choses sur soi et développer sa capacité à digérer ce qui nous arrive. Finalement, le ghosting peut nous être utile. Et c'est le message que Jean-Christophe Villette veut aussi faire passer. Chercher de l'aide si on en a besoin et transformer l'épreuve en quelque chose de positif.
Je pense que chaque expérience, quand bien même compliquée, est une formidable opportunité d'apprentissage. Et j'encouragerai toute personne qui rencontre ces obstacles-là à en faire des situations d'apprentissage pour être encore plus fort demain.
Bien dit Nietzsche. Moi, j'ai décidé de transformer cette expérience négative en un podcast. Et pendant que je travaillais à le réaliser, la maison d'édition m'a recontacté. Le projet n'est pas abandonné, ils étaient simplement terriblement occupés et devaient discuter en interne de points d'organisation. Bon, je continue de penser qu'il aurait suffi de prendre 2 minutes pour l'expliquer dans un mail ou un texto. Mais au moins, j'espère que le partage de cette expérience vous aura plu et vous aura servi, peut-être, à affronter l'abominable ghosting professionnel. Vous venez d'écouter un épisode de Travail en cours, je suis Yvan Jacob, j'ai tourné et écrit cet épisode, le montage et la réalisation sont de Louis Jobard, le mix a été fait par le studio La Fugitive. Si vous aussi vous avez des histoires au travail ou des idées de sujets que vous souhaiteriez qu'on traite, n'hésitez pas à nous écrire sur hello@louismedia.com. À bientôt.
Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis 2 mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Media. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une 50aine de pages grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www. www.lettresola.fr. Bonne écoute et bonne lecture.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.